avec Mathieu Pelletier.
Week-end première.
Mathieu, vous venez ce matin avec une question beaucoup trop compliquée pour un dimanche matin. D'où viennent nos opinions?
Oui, Cynthia, et une fois n'est pas coutume, je vais tenter quelque chose. Je vais proposer à nos auditeurs un petit exercice. Et donc, amis de la première, je vais vous poser maintenant une série de questions. Et je vous propose de constater en vous la réponse qui émerge naturellement sans trop réfléchir. Les questions, les voici. Donald Trump est-il un bon président? Faut-il autoriser le vaccin contre le Covid pour les enfants? Faut-il légaliser le cannabis? La voiture électrique pollue-t-elle moins que la voiture thermique? Alors je vous rassure, je ne vais pas tenter de répondre à ces questions.
Sinon ça va prendre longtemps.
Ça va prendre longtemps, ça va beaucoup polémiquer, mais je vous demande ceci. Votre esprit a-t-il produit une réponse pour chacune de ces questions? C'est probablement le cas, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous. Eh bien, cette capacité de notre esprit à produire quasi instantanément des réponses à des questions complexes, c'est notre capacité d'opinion. On peut dire que notre cerveau est équipé d'un espèce de logiciel capable de produire des jugements en continu sur des sujets très différents, même ceux pour lesquels nous n'avons aucune compétence particulière.
Oui, ça c'est savoureux. Mais ce logiciel, il nous sert à quoi au juste?
Eh bien, il a plusieurs fonctions. D'abord, c'est très rassurant pour nous de croire que nous connaissons la réalité, que nos représentations, excusez-moi, sont bonnes et que nous avons dès lors les explications aux événements qui nous arrivent. Quand bien même notre opinion est fausse, elle a ce mérite de diminuer l'anxiété que provoque en nous l'incertitude. Ensuite, ça nous permet de croire que nous avons une maîtrise des événements. Si je crois que le vent est un dieu dont l'humeur dépend des offrandes que je lui fais, même si c'est faux, j'ai au moins l'impression que je peux agir sur lui plutôt que de simplement le subir. Ensuite, nos opinions permettent de nous affirmer. La personne qui a une opinion, si possible tranchée, réalise un acte d'affirmation devant les autres, il est quelqu'un. Je me suis d'ailleurs beaucoup demandé pourquoi les jeunes qui faisaient souvent des selfies sur les réseaux sociaux l'accompagnaient régulièrement d'une citation un peu bateau sur l'amitié ou sur le fait qu'il faut réaliser ses rêves. Oui. Quel rapport avec leur tête? Eh bien, je pense que c'est justement le caractère affirmatif de l'opinion. La photo me présente physiquement, la citation permet de dévoiler la profondeur de mon esprit.
Comme quoi, un selfie, ça peut être plus profond qu'il n'y paraît.
Ouais.
Mais ce logiciel d'opinion, il n'est évidemment pas le même chez tout le monde, alors d'où vient-il?
Eh bien, nous sommes, je pense, pollués par une idée très ancrée, celle que nos opinions seraient personnelles. Comme si nos opinions, nous les avions nous-mêmes produites par une juste analyse du monde. Évidemment, c'est bien peu le cas. Les statistiques montrent clairement que la plupart de nos représentations sont en fait des héritages. Des héritages qui viennent de notre famille, notre culture, les médias, l'air du temps. Ainsi, par exemple, dans le monde, les croyances religieuses d'un individu sont à plus de 90% tout simplement déterminées par celles des parents. Il y a aussi une forte hérédité des opinions politiques, mais aussi de toute notre représentation du monde qui trie pour nous ce qui est bien, ce qui est mal, qui sont les gentils, les méchants, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Nous héritons de tout ça, mais nous le vivons comme une vérité que nous aurions constatée par nous-mêmes.
C'est un peu dramatique parce qu'alors on se rend compte qu'on est absolument conditionné et finalement pas vraiment maître de
nos
opinions.
C'est un peu triste. Ouais.
Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire de cette situation alors?
Eh bien, c'est très simple, je vais vendre ma camelote de la philosophie. Car la philosophie, figurez-vous, dans son essence même, dans son ADN, c'est ça qu'elle propose en fait. Déconstruire notre logiciel pour avoir une chance de penser autrement que par notre héritage. Socrate disait justement que lui ne savait rien, mais qu'au moins il le savait. Et tout son travail à Athènes consistait justement à tenter d'ébranler les opinions de ceux avec qui il discutait. Descartes, lui, s'est proposé de douter d'absolument de tout pour tenter de se reprogrammer rationnellement. C'est ainsi qu'il arrive à cette première conclusion. Si je doute, c'est au moins que je pense, et si je pense, je suis. C'est pour cela aussi que Nietzsche disait que la philosophie se pratique au marteau, un marteau dont le but est de démolir nos héritages conceptuels pour pouvoir espérer développer une pensée authentique. Kant, quant à lui, disait que l'intelligence d'un individu se mesure à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter, c'est-à-dire en fait sa capacité à ne pas répondre par réflexe avec son logiciel d'opinion. Bref, contre vos opinions, je vous propose à tous un dimanche philosophique.
Et je ne sais plus de qui est cette citation, qui est la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien.
C'est Socrate.
C'est Socrate.
C'est Socrate lui-même.
Voilà, donc effectivement. On va peut-être recommencer par là, relire Socrate avant de se remettre à faire des selfies avec des affirmations à l'emporte-pièce dessous. Même si c'est joli quand même un selfie.
Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait.
Exactement. Voilà. Merci beaucoup.